en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Comme notre confrère Jean-Claude Casanova le rappelait dans le préambule à la notice que j'avais lue en ces murs sur la vie et l'œuvre de mon prédécesseur Pierre Georges, la géographie est présente au sein de l'Académie royale des sciences depuis 1730, année de l'entrée en son sein avec le modeste titre d'adjoint de Philippe Buache, premier géographe du roi, chargé d'exécuter les cartes de ses armées. C'était le temps où la géographie servait d'abord à faire la guerre, comme Yves Lacoste l'a écrit en 1976 dans un essai retentissant, sur lequel je reviendrai. Conformément à son étymologie, l'écriture de la terre, la discipline était essentiellement descriptive. Elle était alors enseignée aussi dans les écoles de jésuites par les professeurs qui avaient en même temps l'histoire en charge. Il y a donc plus de 2 siècles en France, 25 siècles en Grèce si l'on remonte à Hérodote, que la géographie avance en symphonie avec l'histoire, comme dans l'intitulé de notre section « Histoire et géographie ». Et il est éminemment souhaitable, me semble-t-il, que cette complicité se poursuive, s'approfondisse, se débarrasse de certains préjugés qui voudraient, de part et d'autre, qu'une discipline soit l'auxiliaire de l'autre, tant il est vrai qu'il n'existe pas de sciences auxiliaires, puisque le réel est unique, le réel est un, et que le savoir doit tendre à l'être, même si c'est devenu aujourd'hui une gageure compte tenu de l'inflation de la connaissance. Paul Vidal de Lablache et Lucien Febvre sont sans doute les membres de notre compagnie qui sont allés le plus loin dans la réflexion sur la nécessité de la coopération intense entre la géographie et l'histoire. Certes, Lucien Febvre, et je ne veux pas l'annexer à la géographie, est avant tout un grand historien, mais il s'est toute sa vie intéressé à la géographie. Par exemple, dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1933, il réfutait assez vigoureusement l'idée de l'un de ses prédécesseurs, bien connu, Fustel de Coulanges, qu'il jugeait mutilante, et Fustel disait « l'histoire se fait avec des textes ». Lucien Febvre, au contraire, voulait faire entrer dans sa discipline, je le cite, « le ciel et les eaux, les villages et les bois, toute la nature vivante », c'est-à-dire beaucoup de géographie, ce dont témoignent tous ses écrits. Il exprimait ainsi d'une autre manière ce que Michelet écrivait au début dans son tableau de la France, « l'histoire est d'abord toute géographique ». Ou Élisée Reclus, qui lui est un géographe, qui disait que la géographie, c'est l'histoire dans l'espace, et l'histoire, c'est la géographie dans le temps. Donc je voudrais articuler mon propos en 4 points, le premier étant de définir un peu ce qu'est, quel est l'objet de la géographie, et en même temps vous donner un bref historique de sa place en France, puis j'aborderai les questions d'environnement, de géographie applicable et de mondialisation, puisque c'est un des sujets dont les géographes se sont beaucoup emparés. La géographie s'intéresse à l'espace et au territoire, qui sont des aspects fondamentaux de la réalité terrestre. Elle étudie les localisations, les répartitions et les frontières, qui délimite tout ce qui existe à la surface de la Terre, aussi bien des objets naturels que des artefacts, des êtres vivants, les idées et les représentations mentales aussi, quelles qu'elles soient. L'ensemble de toutes ces réalités terrestres est mobile dans le temps, encore une raison de marier l'histoire et la géographie, et la géographie est la seule à répondre à la question suivante, pourquoi ici et pas à côté? Pourquoi ici et pas là? Autre temps, autre mœurs, disent les historiens. Autre lieu, autre mœurs, disent les géographes. Je rappelle à ce propos que le mot alias, je parle sous le contrôle de notre secrétaire perpétuel, désigne en latin classique aussi bien un autre moment qu'ailleurs. Il sert donc autant à l'histoire qu'à la géographie. L'école des annales a ouvert avec bonheur les horizons de l'histoire sur la vie quotidienne des humbles, sur les subsistances, les maladies et la mort, les représentations en général. Mais hélas, on peut le regretter, elle a laissé progressivement dans l'ombre les localisations, les différences spatiales, les répartitions, les lieux, joli mot, ce dernier concept méritant même aujourd'hui sans doute une réhabilitation chez les géographes qui l'estiment trop souvent trop flou et poétique. Et après tout, pourquoi ne pas marier la poésie et la géographie? Toute une école géographique dont le chef de file a été Roger Dion, qui hélas n'a pas appartenu à cette compagnie, mais je crois qu'il n'y a jamais été candidat, a choisi de ne pas se séparer de l'histoire. Parmi eux, je citerai mon maître Xavier de Planolles, Pierre Flatres ou Pierre Brunet. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, le 4 décembre 1948, Roger Dion proclamait les vertus de ce qu'il appelait, mieux que la géographie historique, la géographie rétrospective, c'est-à-dire le regard géographique porté sur le passé et la reconstitution des processus qui ont permis les situations actuelles. Je le cite, « Il ne serait pas inutile que les études géographiques rétrospectives fussent clairement désignées sur les programmes, car l'omission qu'on en fait peut être interprétée comme un acquiescement donné à ceux qui, oubliant leur dette envers Vidal de la Blache, voudraient que la géographie fût présentée aux étudiants de nos universités comme naturellement indifférente au passé. » Par ailleurs, nous devons à Roger Dion d'avoir été le chantre inspiré de la volonté et de la liberté humaine dans l'analyse de réalités géographiques telles que les paysages ligériens ou, bien entendu, je ne pouvais pas manquer de le citer sur ce point, la vigne et le vin, sujet sur lesquels il a enseigné pendant 10 ans au Collège de France. Lorsque l'Institut de France fut créé en 1795, une section de la deuxième classe prend le nom de « Géographie et navigation ». Elle compte parmi ses membres le célèbre marin Louis-Antoine de Bougainville, mais aussi déjà le diplomate originaire du Württemberg, Charles-Frédéric Reinhardt, qui rejoindra la 5e section de l'Académie des sciences morales et politiques recréée par Louis-Philippe en 1832. Rappelons qu'à cette époque, cette section se nomme « Histoire générale et philosophique » et que la géographie n'est pas mentionnée dans son intitulé, en dépit de la présence en son sein de Reinhardt, dont l'œuvre écrite est, il est vrai, assez modeste. Il faudra attendre le 9 juin 1934, pour qu'elle prenne le nom, notre section, d'histoire et géographie, alors qu'ont déjà été élus en son sein Jules Michelet, en 1838, auteur en 1833 du flamboyant Tableau de la France, qui fait de lui un géographe dans l'âme, sinon en titre, Paul Vidal de la Blache, premier géographe universitaire patenté de France, en 1906, et Jean Brune, en 1927. Ces quelques faits résument le singulier destin d'une discipline qui a longtemps peiné à exister. Nos confrères de l'Académie des sciences ont parfois élu des géographes parmi eux. Je pense en particulier à mon prédécesseur à la Société de géographie, Alexandre de Humboldt, qui avait aussi d'autres cordes à son arc, vous le savez. Et le dernier géographe à avoir été élu à l'Académie des sciences fut Emmanuel de Martonne en 1942. Il est décédé en 1955 et il ne sera jamais remplacé par un géographe. La section géographie et navigation de l'Académie des sciences, dans laquelle il siégeait, fut supprimée lors de la réforme de 1975-76 et depuis, plus aucun géographe ne fut élu au sein de cette Académie. La communauté des géographes français a plus mal vécu qu'elle ne l'a dit d'être exclue des sciences de la Terre et de la vie. Et sans doute, c'est une des raisons, frustrée de ne pas être assez prise au sérieux, c'est sans doute ce qui explique l'enthousiasme de quelques-uns d'entre eux, de quelques géographes français un peu pontifiants et surtout très intolérants dans les dernières décennies du XXe siècle, donc une géographie très idéologique qui s'est passionnée pour l'épistémologie, ce qui n'est pas mal du tout, mais une épistémologie très sèche, et pour des méthodes quantitatives, excluant le contact avec le réel, avec le terrain et ce que j'appelais tout à l'heure la poésie, et surtout en développant une passion coupable, que j'estime coupable et suicidaire pour la discipline, pour des néologismes jargonnants que personne ne comprenait plus dans le grand public et encore moins les étudiants et les élèves du secondaire. Donc d'un seul coup, le terrain, c'est-à-dire, voilà un mot auquel beaucoup d'entre nous sommes attachés, c'est-à-dire l'observation pragmatique et empirique du réel, était devenue vulgaire et simpliste, puisque seuls les invariants et les régularités méritaient attention. Le géographe nazi, devenu marxiste après-guerre, Walter Kristaller, a enthousiasmé une grande partie de la communauté géographique avec sa théorie des lieux centraux, qui visait à comprendre, puis ensuite à organiser la hiérarchie des villes selon des principes mathématiques. Cette dérive, dont Roger Brunet, l'un de nos collègues qui a fait carrière longtemps à Montpellier, père des Corèmes, ces figures élémentaires de l'organisation spatiale, s'est fait le théoricien, fait penser à cet avocat que Max Gallo met en scène dans l'un de ses romans, qui s'appelle « La fontaine des innocents », et qui refuse de se rendre sur les lieux d'une affaire qu'il doit plaider, de même qu'aux reconstitutions. Je cite les paroles de cet avocat sous la plume de Max Gallo. « Parfois, d'un ton las, il leur répétait, à ses collaborateurs, que tout n'était qu'abstraction, que le réel était d'abord de la pensée, que tout se réduisait à des signes ou à des mots, que les objets, les actes et même les hommes n'étaient que des prétextes à faire naître ou incarner des signes. Il montrait l'échiquier sur l'écran de son ordinateur et disait « Voilà le monde réel, le seul univers, le reste est accessoire ». C'est une attitude réellement suicidaire, on en conviendra, dont la géographie va, je l'espère, se remettre, mais après avoir perdu beaucoup d'énergie et d'aura au sein de l'opinion publique et dans l'enseignement secondaire, puisqu'elle a délibérément, je dis bien délibérément, cessé de faire rêver et qu'elle a désenchanté le monde en niant tout ce que sa marche doit à la liberté humaine, tant individuelle que collective. Alors certes, on peut se consoler en disant que le magazine Géo, que vous connaissez, tire à 250 000 exemplaires, contre seulement 80 000 pour Historia et 50 000 pour l'Histoire, et que Géo, ce n'est pas une critique ni une pique, parce que beaucoup d'historiens ne considèrent pas qu'Historia et l'Histoire sont des revues sérieuses, mais Géo est tout de même lu par 4 200 000 lecteurs en France, et que c'est une revue internationale qui est diffusée dans une vingtaine de langues dans le monde. Mais hélas, on peut regretter que Géo ne soit que très partiellement géographique et que pour faire rêver, ce magazine doit multiplier les photographies de poissons perroquets ou de peuples premiers habillés de divers vêtements folkloriques. Je dirais un peu la même chose, et sans que ce soit une méchanceté de ma part, pour certaines des photographies de Yann Arthus-Bertrand, qui sont des photos qui, elles, font rêver, mais qui, malheureusement, aujourd'hui, sous sa plume, sont habillés d'un discours qui est profondément idéologique sur l'environnement. Et je me souviens d'avoir contribué à donner le Grand Prix de la Société de Géographie à Yann Arthus-Bertrand il y a une bonne dizaine d'années, alors qu'il nous faisait rêver avec de très belles photos de la Terre vues d'hélicoptères ou du ciel. Aujourd'hui, il cherche plutôt à nous angoisser avec un discours qui relève d'une idéologie vert foncé. Les écoliers, collégiens et lycéens du XIXe siècle, la première moitié du XXe, raffolèrent des nomenclatures concernant les hauteurs de montagne, les longueurs de fleuves, les superficies et populations des pays, le volume de leur production, la liste des départements et de leurs préfectures et sous-préfectures. Ils découvraient le vaste monde et les atlas les faisaient rêver, tout comme les cartes de Vidal de la Blache qui étaient au mur des classes, tout comme les cartonnages illustrés de Jules Verne, ou le Tour de France par deux enfants, qui a fait rêver des générations et des générations d'enfants français, dont l'auteur, vous le savez, est Augustine Fouillet, qui signait du pseudonyme G. Bruno, et publié en 1877. Puis sont venues les premières éditions illustrées des magazines, illustrées de photographies. L'illustration a publié une version illustrée de photos à partir de 1891. Les adultes cultivés se plonger avec délices dans la géographie universelle d'Élisée Reclus, sans percevoir toujours clairement qu'elle contenait une forte dose d'engagement politique de son auteur, qui était, vous le savez, un anarchiste très engagé, mais qui a écrit des choses d'abord magnifiques à lire et profondément vraies, puisqu'il avait un réseau d'informations mondial qui lui a permis d'écrire cette géographie universelle. Ma propre enfance, sans télévision, a été baignée, comme celle d'un autre de nos collègues ici, peut-être d'autres de nos confrères, peut-être d'autres dans cette salle, baigné du parfum aventureux, poétique et très géographique des albums de Tintin, auxquels je dois sans doute une partie de ma vocation. Sans transition, toute une partie de la géographie est passée à une conceptualisation extrême qui ne présenterait d'intérêt que si elle s'appuyait sur une vaste culture concrète, perceptible grâce à des exemples. Mais dans notre discipline, les exemples font peur à un certain nombre de collègues et de chercheurs, et qu'elle apportait des clés d'explication commodes aux situations réelles. Au contraire, dans le même temps, l'histoire a conservé une expression souvent plus claire et attrayante, fondée sur des sources précises et des faits. Par ailleurs, elle suscite de la curiosité et fait rêver, dans la mesure où elle évoque un passé à jamais révolu, tout comme l'archéologie, tandis que nos contemporains ont l'impression de ne plus rien avoir à découvrir de cette planète, tant à les photographier et filmer sous toutes ses coutures, jusque dans ses replis les plus inaccessibles. J'aimerais à présent tenter d'expliquer pourquoi la géographie joue parfois, dans un curieux mélange, à la fois les arrogantes, tout en se cachant un peu comme une timide violette dans le concert des sciences humaines, et pourquoi elle gagnerait à s'exposer davantage, au grand jour, avec clarté et esprit de séduction. J'aimerais dire surtout pourquoi l'humanité tout entière gagnerait beaucoup à approfondir sa culture géographique. La géographie, c'est d'abord la science de l'environnement des hommes. Et je pèse bien mes mots, c'est pas l'environnement tout court, c'est l'environnement des hommes. La géographie est indispensable aux autres sciences naturelles ou humaines, en ce qu'elle est l'une des rares, avec l'anthropologie, une partie de l'anthropologie, à ne pas les séparer, les sciences humaines et les sciences naturelles. Ce qui revient à dire que les unes sont orphelines sans les autres. Et pour éviter la récupération du mot « environnement » par des idéologues en nostalgie de religion, ce mot polysémique ne devrait d'ailleurs jamais s'employer autrement que devant l'expression du genre humain, ou même, puisque le mot « genre » a récemment étendu sa polysémie, de l'humanité, tout simplement. On peut aussi utiliser le mot de « milieu », qui est un très joli mot que notre collègue Augustin Berck a contribué à enrichir en France, en créant certes un néologisme, il est coutumier de cette pratique, qui est le néologisme « médiance ». Médiance désigne la relation entre une société et son environnement, ce qui est bien mieux que l'environnement tout court. Donc le milieu, la médiance, c'est vraiment le cœur de la discipline, l'un des cœurs de la discipline géographie. Ce mot médiance est la traduction d'un concept japonais, puisque Augustin Berck est un grand spécialiste du Japon, concept de Fudo, emprunté au philosophe Watsuji Tetsuro, qui est décédé en 1960. Le mot « environnement » ou « milieu » devrait d'ailleurs toujours être employé en compagnie d'un autre mot, qui est celui de « responsabilité », et qui dit « responsabilité » dit « prise de risque calculée, liberté, attribut de l'homme qui rend la vie digne d'être vécue et la terre passionnante à habiter ». Il n'existe pas de hiatus entre les éléments abiotiques et biotiques de la planète et à l'intérieur du vivant, bien entendu, entre flore, faune et humanité. En d'autres termes, il n'est pas raisonnable de séparer les sciences de l'univers, de la Terre, de la vie et de l'homme, les premières s'étant longtemps qualifiées d'exactes, à la différence des dernières. En réalité, vous le savez, aucune n'est exacte. Le flou, le mouvant, l'imprévisible font partie de la réalité terrestre et de la condition humaine. Et c'est heureux, et c'est tant mieux. L'humanité dispose d'une capacité de plus en plus grande à utiliser à son service le règne minéral, végétal et animal. Mais ces ignorances, ces imprudences ou ces tentations prométhéennes expliquent des choix qui mettent en péril sa propre existence à plus ou moins long terme. Seules les connaissances géographiques permettent de transformer la Terre de manière harmonieuse et de la conduire de manière aussi durable que possible, bien que ce concept de durabilité, si ressassé aujourd'hui, soit plus que contestable. À mesure que la géographie se construit, elle met de plus en plus en doute la détermination des actions humaines par l'environnement. Elle ne nie pas l'influence de celui-ci, mais elle observe le déploiement d'imagination des sociétés au cours de leur histoire pour le connaître, le maîtriser, en tirer profit, le transformer parfois radicalement. C'est la raison pour laquelle les géographes, au moins depuis Vidal de la Blache et Lucien Febvre, inventeurs de ce qu'on a appelé le possibilisme, très joli mot, qu'on a essayé de critiqué très fortement dans les années 80 et 90 dans la géographie française, sont totalement en opposition avec la théorie des climats. Déterminisme qui est d'une affligeante constante dans la pensée occidentale, depuis Aristote, Vitruve, Ibn Khaldoun, pensée occidentale un peu orientale, Boileau et même, pardon, cher confrère, Montesquieu. Même si Montesquieu est le plus grand homme de l'histoire de la pensée française sur la théorie des climats, je crois qu'on ne peut pas le suivre. On ne peut adhérer aux propos de Montesquieu lorsqu'il écrit, je le cite, « Ce sont les différents besoins dans les différents climats qui ont formé les différentes manières de vivre. Et ces différentes manières de vivre ont formé les différentes sortes de lois. » Et on peut encore moins suivre Hegel quand il écrit, je le cite, « L'homme utilise la nature pour ses fins, mais elle ne se laisse pas réduire à l'état de moyen. La zone chaude et la zone froide ne sont donc pas le théâtre de l'histoire universelle. Sur ce plan, l'esprit libre a rejeté ses extrêmes. En somme, c'est la zone tempérée qui a servi de théâtre pour le spectacle de l'histoire universelle. Parmi les zones tempérées, c'est toujours Hegel qui écrit, parmi les zones tempérées, c'est à son tour la zone nordique qui est la seule à remplir ce rôle. » Ratzel, qui est l'un des maîtres de la géographie allemande, professait encore en 1880, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je le cite, que le sol règle les destinées des peuples avec une aveuglante brutalité. Un peuple doit vivre sur le sol qu'il a reçu du sort. Il doit y mourir et y subir sa loi. Notons que cette croyance, car c'en est une, est en totale contradiction avec le récit biblique de la Genèse, qui est pourtant au cœur de la pensée occidentale, qui a nourri le monde judéo-christiano-musulman. La Genèse dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ». Aujourd'hui, la théorie des climats connaît un regain de succès, avec les tenants du nouvel ordre écologique, pour emprunter cette expression à Luc Ferry dans un livre qu'il avait publié en 1992. Donc les tenants de ce nouvel ordre écologique comptent dans leur rang des crédules, mais aussi, hélas, des savants. Et parmi eux se rencontrent même des juristes qui plaident pour un droit des animaux, pour un droit des plantes, pour un droit des nappes phréatiques, voire des couches géologiques auxquelles il faudrait épargner la fracturation, comme on l'entend à propos du gaz de schiste, alors que seul devrait s'imposer un droit majuscule de l'humanité. Je m'en tiens donc aux jolis mots de Bernard Shaw, qui pourtant, sur les animaux, n'était pas très très clair, mais enfin, c'est Lucien Febvre qui a trouvé ce très très joli mot de Bernard Shaw, et il l'a cité dans sa leçon inaugurale de 1933 au Collège de France. Bernard Shaw écrit dans Man and Superman, publié en 1903, « L'homme raisonnable s'adapte lui-même au monde, l'homme déraisonnable essaye d'adapter le monde à lui-même, c'est pourquoi tout progrès dépend de l'homme déraisonnable ». Et Lucien Febvre avait traduit cela en disant, je cite sa dernière phrase, mais c'est une traduction qu'il a quand même tirée un peu vers sa thèse, « C'est pourquoi tous les progrès sont l'œuvre d'imbéciles ». Les prophètes de la décroissance, ils sont nombreux aujourd'hui, ont enfourché depuis des années un cheval de bataille qui est parvenu à impressionner les médias, les décideurs politiques du monde entier, et par voie de conséquence le grand public, j'ai nommé le réchauffement climatique. Celui-ci n'est bien entendu pas un mythe, mais ses modalités, ses causes et ses conséquences possibles comportent encore bien des zones d'ombre. Ces spécialistes sont en général des physiciens de l'atmosphère, il y en a parmi les confrères d'une académie voisine. Hélas, les climatologues géographes, comme feu Marcel Leroux ou comme Martine Tabot, ont un peu de mal à faire entendre leur voix et à expliquer la nécessité des analyses spatiales localisées. Notre discipline, avec l'aide des historiens et des archéologues, doit faire comprendre que le climat a constamment changé, je parle sous le contrôle d'Emmanuel Leroy-Ladurie, et de manière souvent brutale, au cours de toutes les périodes géologiques, et en particulier pendant le Quaternaire, qui est la période donc au cours de laquelle est apparue l'humanité sur Terre. Les sociétés humaines s'y sont toujours adaptées, et de grandes civilisations sont nées et ont grandi sous toutes les latitudes, sous tous les climats, et à toutes les altitudes, fort éloignées pour certaines, des plaines des latitudes moyennes, n'en déplaise à Montesquieu et Hegel. Par exemple, dans le croissant fertile, dans la vallée de l'Indus, au Cambodge, au Mexique, au Pérou, à Singapour, au Canada, en Scandinavie. Hegel serait fort étonné d'apprendre qu'aujourd'hui, les puissances émergentes à forte croissance de la scène économique mondiale, ce groupe de pays qu'on appelle BRICS, comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui pour l'essentiel ne jouissent pas d'un climat tempéré. Pierre Gourou, le premier, a démontré le rôle de l'encadrement social dans l'émergence des grandes civilisations de l'Asie des Moussons. Alain Perfit a également très bien montré qu'il n'est de richesse que d'hommes instruits et civilisés et que la réussite matérielle des sociétés tient plus à leur culture et à leur goût de vivre ensemble qu'au don de leur sol, le Japon en étant un excellent exemple. Jean Bodin est l'un des premiers à esquisser un raisonnement géographique possibiliste lorsqu'il écrit « Combien la nourriture, les lois, les coutumes ont de puissance à changer la nature. » Mais c'est Kant qui est le premier vrai géographe moderne. Il ne voyagea guère, mais sut s'informer de la diversité du monde grâce aux informations qui lui parvenaient dans sa ville portuaire de Königsberg. Et tout au long de sa carrière de professeur, il donna 48 cours de géographie pour 54 de logique, 49 de métaphysique et 20 de physique. Malheureusement, il ne les publia pas et l'on doit se référer à des transcriptions effectuées par ses étudiants ou à quelques-uns de ses écrits, puisqu'il évoque quand même des questions géographiques dans ses travaux imprimés. Il considère que la géographie décrit tout ce qui se trouve à la surface de la Terre, l'homme y étant présenté comme susceptible de modifier son cadre de vie. Il l'a défini, je le cite, comme la science de la différenciation régionale de l'écorce terrestre, ce qui est une formidable avancée conceptuelle qui fait de lui vraiment l'un des pères fondateurs de notre discipline. Et enfin, il s'intéresse davantage aux singularités qu'aux régularités, ce qui préfigure l'un des grands débats de la géographie contemporaine. En fait, il n'existe aucune fatalité. En ce début du XXIe siècle, les climats changent. Et alors ? Gouvernées de manière éclairée, les sociétés humaines sont tout à fait capables de s'y adapter et en même temps d'économiser leurs ressources non renouvelables et d'en inventer d'autres. L'effet de serre inquiète, mais il a d'abord pour conséquence de diminuer les dépenses énergétiques dans les régions situées au nord du 40e parallèle ou au sud du 40e parallèle dans l'hémisphère sud, ce qui freine par là même le changement climatique. Non, le ciel n'est pas prêt de nous tomber sur la tête. J'ose le dire, nous vivons mieux aujourd'hui, beaucoup mieux, à 7 milliards d'humains à la surface de la Terre qu'à 3 il y a un demi-siècle. Malgré leurs difficultés, la Chine et l'Inde mangent désormais à peu près à leur faim. Mais cette évidence est inaudible, hélas, en France. Les seuls pays et régions du monde qui sont soumis à des disettes ou à des famines sont ceux qui subissent des régimes totalitaires, des situations de non-droit ou de guerre civile. Les horreurs que connaissent les habitants de l'Érythrée, du nord du Nigeria en ce moment, de la Syrie, de la Corée du Nord, n'ont aucun rapport avec leur climat. Les latitudes moyennes ont connu les pires horreurs au cours de leur histoire, y compris au XXe siècle, il n'y a pas si longtemps. Donc, je crois qu'il faut suivre Joseph Klatzmann, qui était un agronome qui avait écrit en 1975 un livre magnifique qui allait à l'encontre de tout ce qui se disait dans beaucoup de disciplines scientifiques. Ce livre s'appelait « Nourrir 10 milliards d'hommes » et « Nous avons les moyens, sans tuer la poule aux œufs d'or, de nourrir 10 milliards et même davantage d'hommes à la surface de la Terre, à condition, bien entendu, d'une gouvernance éclairée de la Terre et des sociétés qui la peuplent. » Pour conclure sur ce point, la géographie, qui ne devrait jamais être coupée entre une approche physique et une approche humaine, observe les milieux, associations provisoires entre les sociétés et leur environnement, à toutes les échelles. La géographie pratique la gymnastique des échelles. Elle les compare, en tire des enseignements et peut donner à l'aménagement de l'espace une efficacité, une sagesse, un esprit de justice qui le mettent vraiment au service des hommes, de leurs besoins matériels, mais aussi de leur art de vivre et de leur épanouissement spirituel. En cela, elle est pleinement une science morale et politique. Et d'abord parce que la géographie peut être au service de l'aménagement du territoire et de l'aménagement du paysage. Elle doit l'être. Comme toutes les disciplines scientifiques, la géographie est applicable. On peut ne pas l'appliquer, on peut faire de la géographie totalement conceptuelle et désincarnée, mais elle est, la bonne géographie est applicable. Les géographes et cartographes du roi l'ont démontré en leur temps, en établissant les cartes indispensables aux opérations militaires et aux navigations. Et d'une certaine manière, Emmanuel de Martonne fut leur successeur en étant le secrétaire du comité d'études fondé par Aristide Briand en 1917 et en étant expert à la conférence de paix de 1919. C'est lui qui est l'auteur du tracé, hélas contestable, de la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, qui a donné à cette dernière la Transylvanie, en vertu du principe de viabilité économique et non pas du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La géographie a été traversée d'un grand débat dans les années 60 autour de cette question de l'application. Une majorité des universitaires de l'époque, 1960, jugeaient que ce n'était pas souhaitable, voire que c'était une dérive dangereuse. Je rappelle que Pierre Georges, mon prédécesseur, affirmait encore à la veille de sa disparition, je l'ai entendu moi-même me le dire, que le géographe devait être un notaire et seulement un notaire. Les pionniers de la géographie appliquée à la gestion de l'environnement, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, mais aussi à l'aménagement de l'environnement, furent Michel Fliponneau, Jacqueline Beaujeu-Garnier, Jean Bastier, Jean Tricard, Raymond Dugrand, François Doumange, Étienne Juillard et quelques autres qui sont ici présents dans cette salle. Aujourd'hui, les diplômés de géographie des universités sont parmi ceux qui trouvent le plus facilement une insertion professionnelle à l'issue de leurs études, puisque la géographie est le plus souvent rattachée aux sciences humaines, surtout s'ils ont suivi des cursus de géographie appliquée comportant des stages obligatoires. Le territoire est un concept majeur de la géographie, comme d'ailleurs de l'éthologie, de la science politique ou de certains arts, comme l'architecture. Le territoire désigne l'espace approprié, celui dans lequel une personne ou un groupe social se sent chez lui, en confiance, en intimité affective avec son cadre de vie. Le paysage en est la traduction perceptible par les sens et par les sentiments. On peut dire qu'il est réussi et beau lorsqu'il correspond aux attentes de ses usagers principaux, c'est-à-dire de ceux qui l'habitent, qui le modèlent à leur manière, en permanence, qui y vivent au quotidien. Lorsqu'elle existe, cette harmonie est très perceptible par les visiteurs d'un moment, les touristes. C'est le cas des paysages agraires bien peignés, ceux des rizières, ceux des vignobles, ceux des vergers ou des plantations de thé. Mais c'est aussi le cas des paysages urbains issus de la volonté non pas d'un seul homme, prince ou urbaniste, mais d'une société. Ainsi en est-il des espaces urbanisés au Japon. Peu attrayants, voire inquiétants lorsqu'ils sont vus de haut par un étranger, du sommet d'une tour, mais dont on perçoit rapidement au sol à quel point ils deviennent chaleureux et expriment la sociabilité nippone. Hélas, le hiatus s'agrandit dans beaucoup d'espaces du monde entre les paysages et leurs habitants. C'est principalement en raison d'une confiscation de celui-ci par un seul décideur ou un petit groupe d'hommes, par exemple un acteur politique désireux de laisser une trace visible de son passage sur Terre et qui se lance dans une politique de grands travaux pharaoniques, un architecte ou un urbaniste persuadé de l'immensité de son talent, un ingénieur habité par les techniques qu'il maîtrise et dont il veut affirmer l'originalité, ou pire encore, un idéologue conjuguant toutes ses dérives et voulant faire naître l'homme nouveau qui devra se mouler dans un cadre idéal pour adhérer au projet du prince ou du parti. Les régimes totalitaires du XXe siècle ont donné maints exemples de cette dérive utopique fâcheuse, de cette volonté d'organiser l'espace non pour les hommes tels qu'ils sont, mais tels qu'on voudrait qu'ils soient, de leur imposer le paradis sur Terre. L'un des exemples les plus parlants est celui de la charte d'Athènes de Le Corbusier, rédigée en 1933 sur un luxueux yacht en Méditerranée, au large d'Athènes, et publiée en pleine guerre en 1941 avec une préface dithyrambique de Jean Giraudoux, et qui est très étonnante quand on la relit. Ce texte a largement inspiré l'urbanisme sans urbanité de la deuxième moitié du XXe siècle, et pas seulement en France, mais partout dans le monde. Quand on pense qu'on doit construire le même type de maison et le même type de ville à Chandigarh, au nord de l'Inde, et à Sarcelles ou à Marseille, eh bien, c'est qu'on manque un petit peu de culture géographique et de respect de l'espèce humaine. Une géographie pragmatique, en revanche, est à même d'expliquer ce divorce et de suggérer des solutions respectueuses de la diversité des situations, des environnements, des cultures, des aspirations des groupes sociaux, du génie des lieux. Elle ne peut se substituer aux décideurs politiques, en dernier ressort seul responsable du paysage, mais elle peut utilement les conseiller en leur évitant l'écueil de la technocratie, de la personnalisation abusive et de l'effet de mode. Elle peut attirer leur attention sur le sens des responsabilités qui doit animer chaque acteur ou groupe d'acteurs du paysage et plus largement de l'espace habité, c'est-à-dire de l'écoumène. Abordons la question de la mondialisation, qui n'est pas contradictoire avec le local, qui sont même tout à fait compatibles. François Pérouse semble être l'inventeur du substantif « mondialisation » dans son livre « L'économie du XXe siècle » publié pour la première fois en 1961. Il va beaucoup plus loin que l'économie monde de Fernand Braudel. Depuis les chocs pétroliers des années 70, le concept de mondialisation a fait florès, a envahi la littérature et les médias, et beaucoup en ont fait à la fois un facteur et une conséquence de tout ce qui se passe de bien et surtout de ce qui se passe de mal dans la vie économique mondiale. C'est le fond de la pensée, par exemple, d'Immanuel Wallerstein, propagateur de l'idée de système monde à partir de 1974, aux racines de ce qui est devenu depuis l'altermondialisme et dont on connaît les ravages un peu partout, en particulier dans les manuels d'économie du secondaire, mais hélas aussi un certain nombre de manuels de géographie. La plupart des géographes sont parvenus, heureusement, à la conviction qu'en réalité, la mondialisation n'est ni bonne ni mauvaise intrinsèquement. Un peu comme l'argent, ça n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. La mondialisation fait peur, car il se dit et s'écrit souvent qu'elle vise à abolir les différences, à uniformiser le monde et ses habitants, à écraser les faibles au profit des puissants et au profit du grand capital désincarné. Alors effectivement, c'est une dérive possible, mais ça n'est en aucune manière une fatalité. N'oublions pas qu'aucun système social, politique, paysager, universel n'a jamais pu voir durablement le jour, et c'est tant mieux. Les civilisations sont par nature mortelles, et celles qui prétendaient durer 1000 ans se sont effondrées, faute d'avoir respecté les hommes réels dans leur diversité. Le XXe siècle est à cet égard riche de tragédies et d'enseignements. Certaines techniques, certains objets, certains usages peuvent être répandus sur toute la surface de la Terre ou presque. Je pense, je cite en vrac CNN, le dollar, le jeans en denim, qui est un tissu français, vous le savez, le Coca-Cola, qui est une boisson d'origine française, hélas, le Basic English, qui est une langue bizarre, ou l'idéologie du politiquement correct, qui se répand aussi partout dans le monde. Mais il n'en résulte pas pour autant que les sociétés et leurs expressions sont uniformisées ou en passe de l'être. Au contraire, plus elles sont confrontées aux échanges, plus elles développent des particularismes, et pour peu qu'elles éprouvent l'impression d'être forcées, ceux-ci s'exacerbent et prennent des formes de résistance, y compris violentes et armées. C'est au XIXe siècle, à l'heure de l'achèvement de l'unité nationale française et de la République, que les maisons, les vêtements, les nourritures ont revêtu la plus grande diversité régionale. C'est à cette époque que le Félibrige, sous l'impulsion de Frédéric Mistral, réinvente le provençal. Le breton fait l'objet de la même attention grâce à Villemarqué. Et c'est au moment où se consolide l'Europe que les nationalismes eurosceptiques relèvent la tête, mais aussi les mouvements autonomistes régionaux, en Flandre belge, en Irlande du Nord, au Pays basque espagnol, en Catalogne, en Corse, en certaines provinces du nord de l'Italie, en Autriche, etc. On voit renaître des particularismes ethniques que l'on croyait à jamais révolus au sein des pays africains nés de la décolonisation. Faute d'une ferme gouvernance et d'éducation des populations, ils engendrent malheureusement des régressions et des guerres civiles effroyables. Qu'enseigne une géographie qui se veut au service des hommes ? Que la biodiversité est une réalité qui concerne les végétaux et les animaux, mais que ce concept est transposable à l'ensemble des réalités humaines, à l'ensemble des réalités anthropiques. L'organisation de l'espace ne connaît jamais aucun repos. Elle est sans cesse en recomposition. Les phénomènes relevant de la nature ou bien de la culture, c'est-à-dire de la liberté humaine, apparaissent, progressent, puis diminuent et disparaissent. Il en est autant qu'il en meurt. C'est ainsi que certaines plantes ou certains animaux sont apparus, puis ont disparu, bien avant l'intervention humaine. L'homme est responsable d'un certain nombre de raréfactions ou de disparitions dans la biosphère, mais il est aussi le créateur de très nombreuses nouvelles variétés et espèces. Ainsi en va-t-il des cultures et de leurs traductions multiples, les cultures créoles, afro-américaines, québécoises, israéliennes, philippines, constituent entre mille autres des créations originales, nées des grandes navigations et de l'expansion des Européens, mais nées aussi des phénomènes de diaspora et du fantastique imaginaire des hommes. Les cultures antérieures connurent une genèse plus lente et progressive du fait que les anciens modes de déplacement à pied, à cheval ou en pirogue ne permettaient pas une expansion très rapide des cultures, mais avec quand même des moments remarquables d'accélération et de diffusion sur de vastes espaces, comme les épopées romaines, mongoles, vikings ou arabo-musulmanes. La géodiversité ne se réduira jamais, ou alors c'est que la vie et même les pulsations terrestres, telles que celles des plaques tectoniques, des eaux et des airs, auront cessé sur notre planète. Admettre cette réalité aveuglante, de préférence aux constructions intellectuelles simplistes, oblige à faire preuve de pragmatisme, de respect des ethnies, des identités, des préférences culturelles des sociétés. Il faut chercher à comprendre pourquoi se durcissent les fondamentalismes religieux dans certains pays et pas dans d'autres. Quels sont les ressorts de la montée en puissance des pays émergents, les BRICS que j'évoquais il y a un instant, ou sur les thématiques plus légères, mais qui sont elles aussi de la géographie, les raisons pour lesquelles on aime beaucoup le vert en Allemagne, le rouge en Italie et le bleu en France. Sujet qui passionne Michel Pastoureau, comme vous le savez. Pourquoi aussi, en matière alimentaire, le goût du sucré progresse partout dans le monde, mais que l'amertume se maintient fermement dans l'éventail des saveurs méditerranéennes, alors qu'elle disparaît dans bien d'autres contrées. Ça aussi, c'est de la géographie dite culturelle. Elle n'en est pas moins importante parce qu'elle touche au cœur du quotidien. On objectera que se laisser guider par ces réalités mouvantes, que d'aucuns jugeront futiles, ouvre la porte à tous les excès, à la cacophonie, à l'exaltation des sentiments minoritaires. Non, tel n'est pas le cas si le bon gouvernement prône la recherche du modus vivendi et non du repli frileux sur un précaré toujours plus petit et donc, en fin de compte, sur l'individualisme. L'homme reste un animal social. L'expression de la personnalité individuelle ou sociale ne présente d'intérêt que si elle s'enrichit de celle des autres et si elle est avide d'échange. Alors, le peu glorieux, très critiquable, droit à la différence, peut laisser place à ce que j'appellerais un devoir de différence partagée, auquel nous invite la culture géographique. On voit toutes les applications possibles d'une telle optique, en droit, en politique intérieure et internationale, en aménagement du territoire, en économie, dans la sphère culturelle, etc. Montaigne l'avait bien perçu. Je le cite, c'est dans le journal de voyage. S'il est vrai que le mélange est mal sortable à la stabilité d'un royaume et à la révérence envers Dieu, une mosaïque de cités indépendantes, ayant chacune sa confession particulière, peut contribuer de manière efficace à la paix des nations et à l'élévation spirituelle des sujets, tant le principe de variété est inscrit profondément dans l'humaine créance, comme il l'est du reste dans l'ordre admirable et parfois déconcertant de la nature. Donc permettez-moi d'annexer Montaigne à la géographie. C'est la raison pour laquelle il est vain d'opposer le local au global. Le terroir, qui est un vieux concept éminemment géographique, passe aujourd'hui volontiers pour archaïsant, empreint de regrets du passé. Et pourtant, il mérite d'être revisité et de sortir de son acception purement agricole et agroalimentaire pour gagner toute la vie économique et culturelle. La mondialisation est une chance à saisir, car elle facilite les échanges entre les peuples. Or, ceux-ci ne peuvent se révéler passionnants et fructueux que si la diversité demeure, aussi grande et évolutive que possible à la surface de la Terre. J'ai eu l'année dernière, je crois, l'occasion de vous en entretenir ici dans le domaine du vin. On pourrait appliquer cette idée de modernité du terroir à l'industrie, à l'automobile par exemple, à la construction, à tout l'agroalimentaire en général, mais aussi à des services comme le tourisme. Le tourisme n'a d'avenir que si on voyage pour voir des choses différentes et vivre des situations différentes. Ou la finance. La banque à la française doit être fort différente, et elle l'est, je crois, de la banque à la suisse, à l'américaine, à l'arabo-musulmane ou à la japonaise. Il y a aussi de la culture dans les métiers de la finance, comme dans absolument toutes les productions de l'esprit et du génie humain. Pour parvenir à cette généralisation de la différence partagée, pour laquelle je plaide ici, il faut un monde en paix, dans lequel circulent avec facilité les personnes, les biens, l'argent, les idées. Et c'est l'intérêt des organisations internationales, que l'on fustige trop souvent pour leur caractère bureaucratique, leurs dépenses excessives, leurs hésitations. Pourtant, leur existence est très supérieure à leur absence, et leurs multiples réunions permettent aux hommes de se rencontrer, permettent rencontres et dialogues qui valent toujours mieux que l'enfermement et l'invective. Nous sommes condamnés à les faire vivre et à en améliorer le fonctionnement, ou sinon à revenir à la loi du plus fort, ou à celle du talion. Citons l'ONU et ses agences spécialisées, le G8, le G20, l'Union européenne, je rappelle, 65 ans de paix parmi ses premiers membres après beaucoup de sang versé pendant des millénaires, le Mercosur, l'ASEAN, les tribunaux internationaux dont font partie certains de nos confrères, le Comité international olympique, le Bureau international des expositions, la Conférence mondiale des religions pour la paix, les salons et festivals internationaux, économiques, du livre, de musique, de cinéma, scientifique, le World Economic Forum de Davos, et j'ajouterai même des institutions auxquelles on ne pense pas toujours, les entreprises multinationales, qui sont de très utiles lieux de dialogue entre les hommes. Quelles que soient les critiques dont elles font l'objet, le fait qu'elles soient tendues par nature vers la réussite économique les rend extrêmement précieuses à l'avenir de l'humanité sur Terre. Pour conclure, je vous ai proposé aujourd'hui une vision optimiste de la géographie, à mon sens la seule qui justifie que l'on continue à approfondir cette discipline pour rendre service à la cité. Les géographes ne croient pas aux prophéties autoréalisatrices et millénaristes fondées sur la désespérance. Ce n'est pas parce que de grandes civilisations se sont effondrées que le monde contemporain est à la veille d'une explosion ou d'une implosion, comme vous voudrez. Jean-Paul Aron regrettait dans son livre magnifique « Les modernes » que la planète peu à peu se transforme en kaléidoscope où les lieux et les noms, les politiques et les histoires se pulvérisent en signes qui se bousculent, s'intervertissent et se volatilisent dans un vertige. De quel meilleur appel du pied la géographie pourrait-elle rêver ? C'est précisément à éviter ce chaos mental, ce malaise de l'homme qui ne comprend plus le monde qui l'entoure, que sert la géographie. J'ajoute qu'elle dispose aujourd'hui de méthodes de travail incomparablement plus précises et supérieures, plus fines que naguère en matière de télédétection et de cartographie, par exemple, mais dans d'autres domaines aussi. Elle est une invitation faite à tous les hommes à prendre leurs responsabilités, à agir en tant qu'habitants, producteurs, citoyens, avec zèle, audace, imagination, sans jamais cesser de s'émerveiller de la diversité terrestre et de la faire vivre et de contribuer à l'enrichir, à la faire comprendre, à la faire aimer. La géographie est à la fois fille et mère du dialogue des cultures. Elle peut enfin, je crois, aujourd'hui servir à faire la paix, servir d'abord à faire la paix et non pas d'abord à faire la guerre, comme l'armée peut-être. L'ignorance en général et particulièrement l'ignorance géographique est une arme de destruction massive. Merci de votre attention.